Bienvenue sur le podcast Les Cousins Théologiens.
Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Cousins Théologiens. Vous êtes normalement sur La Rébellion puisque depuis deux épisodes maintenant on se trouve sur ce site et je suis avec Benjamin.
Salut les amis, salut Maxime, content d'être là.
Salut Benjamin. Alors dans cet épisode, on aborde une question, une seule question. D'habitude on aborde plusieurs questions, mais là on va aborder une seule question et donner un peu des pistes pour réfléchir. Et cette question, c'est que faire face à un passage difficile ? Alors ce qu'on veut dire par là, c'est vous êtes dans votre lecture régulière de la Bible et vous tombez sur un passage où vous avez l'impression qu'il y a une contradiction, quelque chose d'un peu flou, et vous demandez qu'est-ce que je fais là ? Il y a une contradiction, est-ce que la Bible est un livre rempli de contradictions ? Est-ce que je mets de côté ma foi ? Qu'est-ce que je fais ? Donc voilà, on a quelques pistes qu'on aimerait vous suggérer. Benjamin, quelle serait la première piste que tu dirais à quelqu'un qui te dit « je comprends pas ce passage, qu'est-ce qui se passe ?»
Ouais, quelque chose que je dis souvent et que je fais moi-même, c'est la première chose à faire quand on est face à un passage difficile, c'est de ne pas remettre en cause toute la foi chrétienne. Parce que souvent, on a cette attitude-là, on voit, voilà, on lit ce passage difficile, on lit ce truc, on se pose cette question, mais comment est-ce que ça et ça, ça peut être vrai en même temps ? Enfin, ces deux passages, comment est-ce qu'on peut concilier ces deux choses ? Comment comprendre ce passage ? Et on a tendance à dire, ah mais alors, ce passage-là, enfin, c'est un problème qui remet en cause toutes les vérités que je connais déjà par rapport à la foi chrétienne. Et je pense que ce serait pas une bonne chose à faire de remettre en cause la foi chrétienne sur la base d'un passage qui nous semble obscur ou qu'on a du mal à comprendre. Et ça, je pense, c'est un peu le défaut de l'être humain. Quand il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, il veut jeter le bébé avec l'eau du bain. Et il veut tout mettre de côté et se dire, ah, mais si je n'arrive pas à résoudre ce problème, alors ça ne va pas aller, je ne peux pas vivre ma vie, je ne peux pas continuer à vivre pour la gloire de Dieu, etc. Non, en fait, il y a des choses qui sont sûres, qui sont vraies, qui sont réelles. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont sûres, qui sont vraies, qui sont réelles, mais on a des certitudes en tant que chrétien, de savoir que Christ est mort pour mes péchés, de savoir que ça, c'est une réalité objective qui s'est passée, qui est réelle, que rien ne pourra remettre en cause. Mais aussi, et je pense dans beaucoup de passages, de se confier dans la réalité de qui Dieu est, dans le caractère de Dieu, qui est bon. Parce que souvent, on peut lire des passages par rapport à la justice de Dieu, par rapport au jugement, par rapport à toutes sortes de choses. Mais en fait, ces passages-là, ces réalités-là, n'enlèvent rien au reste que la Bible nous dit par rapport à Dieu. Et donc, on peut s'accrocher à ces vérités, à ces réalités-là. Et donc, une des premières étapes assez simples, ce serait de dire, mais ok, on prend un grand bol d'air, on souffle, on recule un petit peu, et on se ressouvient du fondement sûr qu'on a. Et ensuite, quand on est sûr de ça et quand on est certain de ça, on peut aborder ces autres questions avec plus de confiance.
Ouais. Ce qu'on dit souvent par rapport à ça, c'est on parle de la clarté de la Bible. On dit que c'est un des attributs de la Bible. Alors, c'est un peu bizarre de parler de clarté de la Bible alors que là, on est en train de parler de passages difficiles. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est pas que tous les passages de la Bible, tous les versets sont clairs et limpides pour, à la première lecture. Ce qu'on veut dire par là, c'est que le message central de la Bible est clair et est perçu vraiment par chacun qui est de bonne foi et qui ouvre le livre pour le comprendre. Et donc, à la lumière de ça, il est raisonnable de ne pas, sur la base d'un verset, mettre tout de côté. Hein, et donc, un des principes d'interprétation de base, c'est d'interpréter les passages obscurs à la lumière des plus clairs. Là, on rentre un peu dans l'herméneutique, mais en tout cas, face à un passage difficile, oui, il faut garder en tête tous les passages clairs qu'on a compris jusqu'à maintenant.
Exactement. Et là, on mentionnait en off là, le passage de 2 Pierre 3, où Pierre écrit et il reconnaît effectivement qu'il y a des passages plus difficiles dans la Bible. Il parle de Paul et il dit que Paul parle dans toutes les lettres de ces choses. Il s'y trouve certes des points difficiles à comprendre et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens, comme elles le font des autres écritures pour leur propre ruine. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est pas de dire « Ah, tout ce que Paul écrit, c'est vraiment compliqué, n'y touchez pas ». Non, il reconnaît que certaines parties, certains points que Paul a abordés sont plus difficiles à comprendre. Il dit pas « impossible à comprendre », il dit « plus difficile à comprendre ». Et c'est les personnes ignorantes et mal affermies qui en tordent le sens. Et donc, ça veut dire qu'on peut s'attendre, en tant que chrétien, à comprendre la Bible. On ouvre la Bible et on peut s'attendre à la comprendre. Et donc, on veut affirmer la clarté de l'Écriture. Et bon, on reviendra aux autres choses après, mais ça ne veut pas dire que ça répond à toutes les questions qu'on aurait. Et des fois, peut-être, on veut poser des questions au texte auxquelles le texte ne répond pas.
Voilà, donc le premier point, ne pas remettre en cause toute la foi chrétienne. Et le deuxième point auquel on avait pensé, il est lié à ce qu'on vient de dire, c'est le fait que la vérité est digne d'être poursuivie. Benjamin vous disait que non, on peut comprendre la Bible. Et en effet, ce qu'on est en train de vous dire, c'est pas non, mais laisse tomber, il y a des passages qui sont compliqués. C'est pas grave, voilà, chacun son interprétation. Ouais. Non, ça vaut le coup parfois de creuser, ça peut nous apprendre des choses, nous remettre en question. Et parfois, un passage aussi est difficile pas parce qu'il n'est pas clair, mais parce que c'est difficile pour nous d'en accepter la vérité. Et il faut reconnaître parfois qu'on a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence, que la vérité qui est devant nous est difficile, pas parce qu'elle ne serait pas claire, mais parce qu'elle ne nous plaît pas. Et donc, il faut aborder la Bible avec un esprit soumis et reconnaître que, oui, la vérité est digne d'être poursuivie, digne d'être aimée, même quand elle ne nous plaît pas.
Ouais.
Donc, et le deuxième conseil, ça serait ça.
Et par rapport à ce que tu dis, là, juste avant de donner le troisième conseil, c'est une bonne chose, en fait, qu'il y ait qu'on voit un passage difficile ou qu'on voit un problème qu'on veut résoudre. Et c'est pour ça qu'on veut dire, mais vas-y, fonce, creuse la Bible. C'est une bonne chose de creuser la Bible, de creuser l'Écriture, de chercher à comprendre ce que la Bible enseigne, de chercher à comprendre ce que Dieu nous a révélé. C'est pas une perte de temps, c'est pas en vain. Et même, en fait, je pense que c'est une bonne chose de creuser des sujets dans lesquels on a un intérêt, où on voit qu'il y a un problème qu'on aimerait résoudre. Par exemple, si c'est, je donne juste un exemple un peu bête, mais la réalité que Dieu est souverain et qu'on est responsable, de vouloir voir comment la Bible met les deux ensemble, j'irais, mais vas-y, fonce, creuse la Bible, recherche davantage pour voir comment les deux vont ensemble, comment la Bible présente ces deux réalités. Et je pense que c'est Luther qui mettait ça en avant, que c'est une des clés de compréhension d'un passage, c'est le fait que ça nous travaille, qu'on dort la nuit, on pense à ça et on a envie d'avoir la réponse à cette question théologique. Et on vit dans un sens à la lumière de ça, mais c'est une bonne chose parce que ça concerne ce que Dieu nous a révélé, et ce que Dieu nous a révélé, c'est une bonne chose.
Ouais, je pense que ça honore Dieu aussi de voir qu'on prend au sérieux ce qu'il nous a révélé, qu'on se dit pas de toute façon c'est incohérent, tu vois, mais ouais. Qu'on est là à se dire non, on croit que c'est cohérent et du coup on veut comprendre pourquoi ça l'est, comment ça l'est, et ça prouve qu'on prend au sérieux, je pense, la révélation de Dieu.
Exactement. Ouais. Le troisième conseil, ce serait, alors là encore c'est assez simple, mais une fois qu'on a mis ces fondements dans notre tête, qu'on est au clair sur ces choses, c'est relis et prie. Relis parce qu'on peut avoir mal compris une contradiction apparente, on peut avoir mal compris un passage, on a besoin de relire, de relire, de relire, de relire sans cesse pour être sûr de comprendre ce que le passage veut dire. On veut comprendre le contexte aussi, et Maxime va y revenir dans un instant, mais on veut relire, on veut s'arrêter sur le texte, on veut être au clair sur ce que ça dit. Mais on veut aussi prier parce qu'on reconnaît que comprendre la Bible, c'est pas une démarche purement humaine. On a besoin de l'Esprit de Dieu pour nous ouvrir, pour nous illuminer sur ce que la Bible enseigne, sur ce que Dieu a révélé. L'Esprit de Dieu et la parole de Dieu agissent toujours ensemble. La parole de Dieu ne peut pas être comprise sans l'œuvre de l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu n'agit pas là où la parole de Dieu n'est pas explicitée ou présente. Et donc on veut prier, Seigneur, ouvre mes yeux que je contemple les merveilles de ta loi, être dans une attitude de dépendance envers Dieu. Je veux comprendre ta parole, j'ai un cœur qui désire grandir. Donc ça c'est assez simple dans un sens, mais c'est important, c'est nécessaire. Et sans ça, on ne peut pas légitimement comprendre la Bible.
Ouais, le quatrième élément auquel on avait pensé, comme tu l'as mentionné, c'est le contexte. Et ce qu'on veut dire par là, c'est oui, c'est une règle d'interprétation, et on pourrait faire un épisode sur l'interprétation de la Bible. Il y a des bons livres écrits là-dessus, des bons articles aussi. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est que parfois, on aborde le texte en voulant que le texte réponde à une question qu'on a, alors qu'au fait, c'est pas le texte, c'est pas le sujet du texte. Et du coup, le texte nous semble difficile, mais artificiellement, en fait. Un texte qui serait par nature assez simple, parce qu'on vient avec certaines questions face à ce texte, des questions auxquelles il n'est pas censé répondre, il devient compliqué pour nous. Et du coup, faire une étude, une relecture, pas seulement du verset en question, mais peut-être du chapitre, voire du livre, et de voir à quelles questions l'auteur cherche à répondre, ça nous aidera à préciser ce qu'on ne comprend pas. Et préciser ce qu'on ne comprend pas, ça nous aidera aussi à creuser, à poser les bonnes questions aux personnes qui pourraient nous aider et à chercher les bons articles, les bonnes ressources. On va parler plus tard des personnes à qui poser ces questions et des ressources, mais il faut déjà venir avec une question bien formulée. Parce que je pense qu'un des dangers aussi, quand on pense aux passages difficiles, surtout pour ceux que ça travaille beaucoup, c'est qu'ils sautent de passage difficile en passage difficile, et du coup ils sont dans leur tête avec une nuée d'incompréhension. Et au lieu de produire de la lumière, ça produit du doute, en fait. Et le mieux, c'est d'être méthodique. On dit, on va prendre les passages un à un, on va les étudier sérieusement, plutôt que de se lancer dans toutes les questions possibles et toutes les difficultés bibliques, et au final, n'arriver à pas grand-chose parce qu'on aborde tout de manière superficielle.
Exactement, oui. Merci.
Un cinquième conseil auquel on pensait, donc je vais rappeler les quatre premiers pour que ce soit bien clair, ne pas remettre en cause toute la foi chrétienne, poursuivre la vérité, relire et prier, et tenir compte du contexte. Un cinquième conseil, c'est que généralement, c'est plus facile de dire ce que le texte ne veut pas dire que ce qu'il veut dire quand on parle des textes difficiles. Et ce qu'on veut dire par là, c'est lié au point 1, c'est-à-dire quand on connaît la foi chrétienne en général, c'est ce qu'on appelle l'analogie de la foi, quand on connaît toute la foi chrétienne, on sait par analogie, par comparaison, que ce passage ne peut pas enseigner, par exemple, que Dieu a été créé ou a commencé d'exister. Parce qu'on sait par ailleurs que Dieu est éternel. C'est un exemple que je donne qui est tout simple, mais ça fonctionne de façon générale, ce principe. Si vous avez un texte particulier, vous pouvez déjà dire ce qu'il ne veut pas dire parce que vous savez ce que d'autres textes affirment. Et quand on croit que toute la Bible est inspirée de Dieu, on croit qu'elle a un seul auteur et donc une certaine unité donnée par cet unique auteur. Bien sûr, il y a différents auteurs humains, mais il y a un auteur divin derrière. Et le fait qu'il y ait cet auteur, ça montre qu'il y a une cohérence, en fait. Ça implique qu'il y a une cohérence dans tout le texte. Et on ne peut pas prendre une partie de la Bible pour l'élever contre une autre. Donc si on veut bien comprendre la Bible, on peut déjà dire ce que le texte a priori ne veut pas dire. Et en rejetant comme ça, il ne veut pas dire ça, il ne veut pas dire ça, il ne veut pas dire ça, ça clarifie le chemin et ça aide à déterminer plus précisément ce qu'il veut dire. Est-ce que tu as eu
Excellent.
des expériences un peu similaires dans l'étude de texte à l'IBB, à
Ouais.
savoir oui, exclure des interprétations un peu
Ouais, non, je pense que c'est une règle très importante parce que souvent, en fait, c'est ce qui me vient à l'esprit quand j'ai un passage difficile que je rencontre ou me pose des questions dessus. Bah, j'ai beaucoup plus de facilité à dire non, mais en fait, ce texte ne veut pas dire ça, ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'on compare ça au reste de ce que la Bible enseigne. Et c'est plus difficile de dire ce qu'il veut dire, mais le fait de dire il ne dit pas ça, bah, c'est déjà un fondement qui est important à mettre et qui est solide et qui nous encourage et qui nous rassure. Et juste un exemple, juste récent que j'ai dans ma tête, c'est la semaine dernière, je préparais une étude biblique pour mon église dans 1 Pierre 4. On étudie le livre de 1 Pierre en ce moment. Et il y a ce verset dans 1 Pierre 4, les versets 17 et 18, qui disent, c'est le moment où le jugement commence, et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, par la maison de Dieu, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Et donc on peut lire ce passage et se dire, waouh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je suis chrétien, je suis sauvé, mais je vais être sauvé avec peine, je ne suis pas vraiment sûr d'être sauvé? Est-ce que ça veut dire que je vais faire face au jugement comme les non-croyants font face au jugement? Et donc on peut avoir toutes ces questions qui grandissent dans notre tête. Alors là, on doit se rappeler les étapes. Déjà, on ne remet pas en cause toute la foi chrétienne. On se rappelle de ce qu'on sait, qu'on est sauvé par grâce, par le sang de Jésus, à la croix, par le pur don de Dieu, gratuit de Dieu. Et on vient à l'analogie de la foi, on sait que la Bible enseigne qu'en tant que chrétien, si on est sauvé, on est certain de ce salut. On n'a pas à douter, on n'a pas à redouter de craindre un jugement de la part de Dieu. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, nous dit Romains 8. Et donc juste de dire ça nous rassure sur ce que ce passage ne veut pas dire, ça donne beaucoup d'encouragement et ça nous évite de nous tourmenter sans raison. Mais maintenant, on veut aussi vouloir dire ce que ce passage veut dire. Comme on le disait dans le point 2, la vérité est digne d'être poursuivie. Et donc on veut creuser ce passage pour voir ce qu'il veut dire. Et juste rapidement, si on regarde ce passage de 1 Pierre et le contexte, on voit que le jugement dont parle Pierre, alors Pierre écrit à des chrétiens qui souffrent, ils souffrent du fait d'être chrétiens. Dans cette même section, on voit qu'ils sont insultés à cause du nom de Christ au verset 14. Et dans tout le reste de 1 Pierre, on voit qu'ils souffrent juste parce qu'ils sont chrétiens. Et c'est une situation difficile qu'ils vivent, ils sont calomniés, ils sont rejetés, moqués, etc. Et Pierre veut montrer par ce passage que ce qu'ils vivent, c'est une sorte de discipline de jugement, oui, dans un sens, pas la même nature du jugement que les non-croyants vont vivre, mais une discipline, comme il nous est parlé dans Hébreux 12, par exemple, ou dans d'autres passages de l'Écriture, où Dieu châtie ses enfants pour leur bien, pour les faire grandir. Et donc c'est rassurant ça, mais c'est plutôt pour dire l'argument de Paul ici, c'est un peu un argument a fortiori. Donc si ça c'est vrai pour ces personnes-là, alors à combien plus forte raison pour ces autres personnes? Et donc de dire, bah, si les chrétiens, on peut dire qu'ils sont jugés dans ce sens-là, qui par une période de souffrance, une période difficile, bah, à bien plus forte raison, les non-croyants qui désobéissent à l'évangile, comme il est dit dans ce verset, qui désobéissent à l'évangile, qui sont impies, comme il est dit dans ce verset, à bien plus forte raison, eux vont connaître un jugement terrible. Et donc, c'est vraiment pour mettre en avant la gravité, la hauteur, la valeur du jugement, et pour encourager ces chrétiens que ceux qui les font souffrir vont être jugés, il y aura justice pour leurs actes. Donc voilà, c'est juste pour donner un exemple concret que j'avais récemment dans ma tête, je ne sais pas si c'est le meilleur exemple, mais pour dire on veut comprendre les passages que l'on ne comprend pas à la lumière de ceux qu'on comprend déjà, et pas faire le chemin inverse pour remettre en question les passages qu'on a plus de mal à comprendre.
Ouais, et je pense qu'en fait, dans ce qu'on a dit là, il y a beaucoup de bon sens, dans le sens où si vous parlez à quelqu'un et que vous avez l'impression qu'il se contredit, si vous lisez un livre par exemple, vous avez l'impression que le paragraphe d'après contredit celui d'avant, parce que vous allez faire, c'est essayer de comprendre comment, à la lumière du paragraphe du dessus, ça peut être compris de manière non contradictoire. Alors après, les auteurs humains sont faillibles et peuvent se contredire, mais a priori, la première chose qu'on doit essayer quand même, c'est d'essayer de voir comment les choses concordent. Pour la Bible, on croit qu'elle est infaillible, donc on sait en plus, on a un avantage, on sait que ça ne va pas se contredire. Donc en fait, c'est pas ce qu'on vous invente, ce qu'on vous dit plutôt, les conseils de dessus, c'est pas des choses qu'on a inventées justement. C'est simplement du bon sens qui découle de ce que la Bible est, de ce qu'on croit sur la Bible.
Exactement,
Alors
et c'est
Benjamin, Ouais, tu veux dire.
Juste avant de passer au sixième point, c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'on part avec ce présupposé justement de dire que la Bible est infaillible, que la Bible est sans erreur. Pas parce qu'on se force à croire, parce qu'on voudrait le croire et on se dit ah non, on veut fermer les yeux sur les contradictions qu'il y aurait. Non, parce que ce que Dieu dit est conforme à ce que Dieu est. Dieu est bon, Dieu est pur, Dieu est vrai, Dieu est juste. Et donc ce que Dieu dit est bon, vrai, juste, pur, etc. Et donc quand Dieu se révèle par sa parole, ben, on peut lui faire confiance. Non seulement il est tout-puissant pour pouvoir communiquer ce qu'il veut communiquer, mais aussi il est juste Dieu et il ne ment pas. Et donc ce qu'il communique est vrai et on peut lui faire confiance. Et donc on part avec ce présupposé de dire, mais en fait, toute contradiction n'est qu'apparente. C'est pas une folie de dire ça, c'est juste prendre la Bible pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle se présente être.
Et je pense qu'au contraire, c'est fou et illogique de prétendre d'un côté que la Bible est la révélation de Dieu et de l'autre d'admettre qu'il y aurait des erreurs en elle. Parce qu'on est en train de dire qu'en fait, le Dieu qui est l'absolue vérité pourrait faire des erreurs. Et ouais, c'est vraiment très problématique sur le plan de la logique de dire ça. Alors Benjamin, une fois que tu aurais appliqué tous ces contextes, et si le texte demeure compliqué encore, à qui t'irais poser des questions?
Merci. Alors ça, c'est la sixième étape. Et ce que j'aimerais dire, c'est que, alors on est conscient qu'il y a plein de ressources en ligne. Et on va y venir. Maxime va présenter ça dans un instant. Mais avant ça, moi, j'encouragerais à... Enfin, la priorité reste toujours l'église locale. La révolution n'est pas ton église locale. Et la REB n'a pas pour but de remplacer ton église locale. La REB a pour but de servir les églises locales. Et donc, j'encouragerais chacun à se tourner d'abord vers son église locale, vers un frère ou une sœur plus âgé dans la foi, plus mature dans la foi, qui connaît mieux la Bible que nous et qui a peut-être traversé cette question ou qui pourrait nous aider à répondre à cette question, répondre à ce problème, lui envoyer un message, l'appeler, lui envoyer un mail, lui demander, quand on le voit lors d'une rencontre, d'une réunion de l'église, ou d'aller voir les anciens, le pasteur, pour poser cette question. Je pense que ce serait la bonne démarche à faire. Non seulement ça respecte l'autorité des anciens et l'autorité que Dieu a voulu dans l'Église, non seulement ça, mais aussi ça permettra des discussions spirituelles avec tes frères et sœurs dans l'Église, ou d'aller demander à un ami qui est un peu au même niveau de toi, qui galère comme toi à comprendre ces passages, mais comme ça, vous serez deux à galérer. Et quand on est deux à galérer, ben, on galère un peu moins, et on peut porter les galères de l'autre et comprendre un peu mieux ce que la Bible enseigne. Donc j'encouragerais vraiment dans ce sens-là, parce que je pense qu'il y a le danger de courir vers les ressources en ligne. Alors, je suis convaincu des ressources en ligne, et merci Seigneur pour ça. Et ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est une ressource en ligne. Mais voilà, toutes ces choses qu'on voit, c'est pas elles qui ont l'autorité sur nos âmes. Enfin, tous ces blogs, c'est pas eux qui ont l'autorité sur nos âmes, mais c'est les pasteurs, les anciens de notre église locale et nos frères et sœurs dans l'église. Ensuite,
Excellent.
Maxime, si on voulait mentionner des ressources en ligne pour creuser ces questions, c'est pas mauvais et on n'est pas en train de dire qu'il faut pas le faire, c'est une bonne chose à faire et on n'est même pas en train de parler de priorité que si vous avez une question, ne cherchez pas sur Google, non, on n'est pas en train de dire ça. Enfin,
Non,
peut-être.
d'ailleurs, il est même possible que le pasteur ou la personne de l'église que vous contactez finalement vous envoie vers une ressource en ligne.
C'est ça.
Mais ce qu'on veut dire, c'est que, et je pense, c'est ce que je voulais dire ça aussi avant de passer à ça, à la suite, c'est que la Bible s'adresse à un peuple. Les épîtres sont presque toutes écrites à telle église, non pas à tel individu. L'Ancien Testament s'adresse à un peuple et encore aujourd'hui, l'église est faite pour l'église. Pardon, la Bible est faite pour l'église. Et donc, si on la lit nous tout seul sans prendre les avis des autres, on augmente notre chance de faire des erreurs en fait. Alors que quand on a une communauté bienveillante autour de nous qui est là pour nous aider, ça nous aide vraiment. C'est pas juste un conseil gentil parce qu'on a envie d'être gentil avec les pasteurs qui nous écouteraient. On pense vraiment que c'est une aide pour vous aider à trouver la vérité. Alors oui, comme Benjamin l'a dit, il y a des ressources en ligne et je pense que la plupart des pasteurs les encourageraient et vous encourageraient à les consulter. Et donc j'ai pensé au podcast Que dit la Bible, qui est produit par le site leboncombat.fr. C'est un podcast animé par Guillaume Bourin, principalement lui est seul d'ailleurs souvent. Et il aborde des questions que les auditeurs lui posent par mail ou par le contact du blog. Et souvent c'est des réponses précises qui abordent un texte spécifique. Là nous on a fait une question globale, mais lui il va aborder des textes spécifiques. On a pensé aussi au podcast Un pasteur vous répond. Dans le même ordre d'idées, un peu sous le même format, mais là sur le site toutpoursagloire.com.
Ouais, par Florent
C'est
Varac qui
Florent Varac.
répond chaque semaine à une question sur plein de sujets, des fois des passages difficiles, des fois des concepts de la foi chrétienne. Et c'est vraiment excellent. On vous encourage vivement à écouter ces podcasts en masse et à les diffuser autour de vous. Ils sont très utiles. Tu
Ouais,
voulais
est-ce que tu
mentionner
penses à des livres aussi?
Des livres, bah, que je pensais à Creuser l'écriture, c'est un bon livre qui, pas forcément pour répondre aux questions difficiles, mais pour avoir une bonne approche de l'écriture quand on veut creuser la Bible, et un peu pour revenir sur les premiers points là, quand on disait prendre en compte le contexte, relire, prier, etc. C'est un livre édité par les éditions Clé, qui donne des boîtes, des outils, une boîte à outils pour creuser l'écriture et comprendre le texte de la Bible. Je le trouve vraiment excellent, je le conseille chaleureusement.
Après, il y a des collections entières, alors qui ne sont pas forcément données, mais peut-être que des gens dans votre église les ont. Je sais qu'Alfred Kuhn a fait une collection qui s'appelle
Les encyclopédies des difficultés bibliques.
Voilà, et il y a des choses similaires en anglais, mais en tout cas en français, il y a Alfred Kuhn qui a fait ça. Et c'est vraiment une compilation de plein de commentaires qui se sont frottés à la question et des différentes solutions qui ont pu être abordées. Donc ça, c'est vraiment une ressource précieuse. Je ne sais pas si tu penses à autre chose. Ce que je donnerais quand même encore comme conseil, c'est d'aller écouter notre podcast sur la théologie. Je veux étudier la théologie, par où commencer? Parce que je pense justement que la théologie ne doit pas commencer par les passages difficiles, mais par la foi chrétienne, comme on le disait au début, d'une façon globale, sur tous les textes clairs. Et que si on aborde les textes difficiles sans ce fondement, on court à l'incompréhension, en fait.
Ouais, exactement. Super, merci Maxime. Je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter.
Non, je ne vois pas d'autres points.
Excellent, alors
peut-être
merci.
On va rappeler ces 7 points, non?
Ouais, vas-y, excellent, très bonne idée.
Alors, ne pas remettre en cause toute la foi chrétienne, poursuivre la vérité, toute vérité est digne d'être poursuivie, relire et prier, analyser le contexte et préciser la question, considérer que c'est plus facile de dire ce que le texte ne veut pas dire que ce qu'il veut dire, questionner l'église locale et consulter des ressources en ligne.
Excellent, voilà, j'espère que ça vous encourage, j'espère que ça vous motive. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions, pas forcément sur les passages difficiles, mais sur ce que vous voulez.
Avez des questions sur les passages difficiles, posez-les à Que dit la Bible ou un pasteur vous répond.
Ouais, c'est ça, laissez-nous les passages faciles, on préfère. vous pouvez nous contacter, Maxime, vous pouvez le suivre sur parlafoi.fr, où il blogue avec une équipe, et moi-même, vous pouvez me suivre sur Instagram ou sur YouTube. Merci beaucoup Maxime, c'était super de faire ce podcast. Merci pour vos retours, vos encouragements. Donc on continue les cousins théologiens sur la rébellion le 10 et le 25 de chaque mois, une date à mettre dans vos agendas, à ne pas rater. Vous pouvez nous suivre sur SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, YouTube, MySpace, Skyrock,
MSN. Non,
c'est ça, exactement. Super, bah merci Maxime, bonne journée à toi et puis à bientôt les amis.
À bientôt.